Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il est une légende de la musique noire américaine, une légende du blues, une légende de la musique tout court, Robert Johnson. Il chantait comme un oiseau, jouait de l'harmonica et de la guitare comme un dieu, ou peut-être comme le diable, puisque c'est sous son haut patronage que sa réputation s'est installée. Des blessures à vif dès la naissance, une vie d'excès autodestructeur dans l'Amérique de la ségrégation, mais une âme d'artiste exceptionnelle et une pulsion créatrice dont le souffle continue d'irriguer les musiciens d'aujourd'hui, bien au-delà du blues. Mort à 27 ans, il fait partie du fameux Club des 27. Voici les derniers jours de Robert Johnson, de Franz Duchazeau, un superbe album de bande dessinée tout en noir et blanc, paru chez Sarbacane, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Franz Duchazeau.
Bonjour.
Come on in my kitchen, une des très nombreuses chansons qui rythment votre narration. Il faut évidemment les écouter, hein, ces chansons, en lisant cet album, parce que cela nourrit davantage encore le plaisir de lecture et l'impression de miracle qui s'en dégage avec cette voix, cette sensibilité incroyable. D'ailleurs, quand sort un album de bande dessinée, on se dit que c'est toujours un petit peu un miracle. Mais alors celui-ci, c'est peut-être encore plus vrai, parce que vous avez eu, je crois, très chaud. Comme si le diable en personne s'en était mêlé. L'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé, Franz Duchazeau, le 13 juin 2023, aux alentours de 16h30?
On m'a volé mes planches. On les a volées sur le scooter d'un coursier qui devait les amener pour la photogravure. Et donc, à partir de ce moment-là... tout mon travail, tout mon rêve s'écroulait, quoi, en fait.
222 planches originales.
Ouais, 230.
Ça représentait 3 ans de travail.
Quasiment 2 ans et demi de travail, ouais.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait de quoi s'arracher les cheveux, là.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé par terre. Et puis, je pouvais plus parler. Et j'étais hébété, quoi.
Alors, l'éditeur a porté plainte. Vous avez lancé, évidemment, des appels sur les réseaux sociaux. Et l'album est sorti, donc vous les avez récupérés, ces planches?
Je les ai récupérées au bout de 5 jours, en fait. J'ai bien fait d'immédiatement intervenir sur Instagram et Facebook, parce que je ne voulais pas attendre, en fait. Je voulais tout de suite ça se... En fait, j'en espérais même pas tant, quoi. Je me suis dit, je vais lancer une bouteille à la mer comme ça, au cas où, mais sans penser une seconde que ça allait marcher, quoi. Vraiment, j'étais au fond du gouffre. Enfin, au bout de 5 jours, on a retrouvé les planches. Donc,
comment elles ont été retrouvées? On a retrouvé le voleur aussi?
Un type a téléphoné un samedi matin à Sarbacane, alors que normalement, il n'y a personne chez Sarbacane un samedi matin. Et donc, il y avait un graphiste qui était là et qui est intervenu. Et le type lui dit, j'ai vos plaques. Je regardais sur les réseaux sociaux qu'est-ce que c'était ce book, à qui ça appartenait et tout. Et donc, il a eu un rendez-vous, le graphiste, au Jardin du Luxembourg pour qu'on lui remette le book. Et donc, ce type-là lui a rendu les planches. Et dans sa façon d'être et de parler, on sentait qu'il avait quelque chose à se reprocher, quoi. C'était pas un sauveur des planches. Enfin, il n'était pas... je pense qu'il avait quelque chose à voir avec le vol des planches, quoi.
Ouais, mais l'histoire s'est arrêtée là.
L'histoire, c'est que lui, il a raconté qu'il les a achetés à un clochard dans la rue Montorgueil pour 50 euros. Et alors, qui peut croire ça, quoi? c'est déjà très très gaguesque, quoi. Donc en fait, nous, tout ce qui nous intéressait, c'était de récupérer les planches. Entre-temps, on a déposé plainte et on les a retirées. On a retiré la plainte très vite derrière.
Alors, c'est pas la première fois que vous dessinez le personnage de Robert Johnson, Franz Duchesneau. Vous l'avez déjà dessiné il y a 16 ans dans un album Meteor Slim, une autre histoire de bluesman. Alors, Meteor Slim, c'est un personnage fictif qui rencontrait le vrai, l'unique Robert Johnson. Et dans ce nouveau récit, d'ailleurs, vous évoquez cette rencontre au détour d'une planche. Ça veut dire que vous n'en aviez pas fini avec Robert Johnson. Vous aviez envie de remettre ce personnage cette fois
dans le
centre d'une œuvre.
C'est-à-dire que, je n'avais pas prévu de faire un album sur Robert Johnson 16 ans plus tôt.
Non.
C'est vraiment... l'album, j'ai voulu le... Le déclencheur, ça fait quand la troisième photo de Robert Johnson est apparue sur les réseaux sociaux en 2020 ou en 2021, je sais plus. Vraiment, ça m'a fait un effet incroyable, comme si on déterrait, on trouvait la photo de Mozart, quoi. C'est pour vous dire un peu le. En fait, tous ces personnages du passé sont tellement lointains dans le temps et dans notre façon de voir le monde actuellement. Tel qu'on le vit, des personnages qui ressurgissent comme ça du passé nous ramènent, en tout cas pour moi, me ramènent à, parce que j'ai une relation au temps très, très particulière en fait. Ces personnages-là vous ramènent vers quelque chose que vous aimez particulièrement et le fait de le concrétiser comme ça par une photo qui est quelque chose qui a été réel, qui a été un moment de réalité dans la vie de ce personnage-là qui se prend en photo lui-même dans ce photomaton, c'est presque fou en fait. C'est comme si un trésor ressortait du passé, quoi.
Alors, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Robert Johnson pour la première fois ?
Alors moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans un magazine en 91, je crois, dans le magazine Best. Et il sortait la compilation. En CD de tout Robert Johnson, des 29 titres, avec des double take. Et il y avait je me souviens, c'était Patrick Hudlin, je crois, qui avait fait un article sur la vie de ce type-là. Et donc, j'étais avec un pote, on s'est acheté le CD. Et très curieux, parce que cette photo-là qui couronne sur la pochette du disque était tellement étrange avec ce que j'écoutais à l'époque, c'est-à-dire les Pixies, Amano et compagnie. C'est cette photo qui surgit comme ça aussi du passé et qui nous appelle de loin comme ça.
C'est intéressant parce que finalement, on aurait pu penser que c'est d'abord la musique qui aurait attiré votre oreille, mais finalement, vous êtes vraiment un homme d'image, quoi. Il y a deux photos qui sont à l'origine.
Exactement, parce qu'en fait,
album.
Même quand j'ai commencé à écouter le disque de Robert Johnson, je n'ai pas du tout aimé, quoi.
Ouais.
C'était des morceaux qui grattaient très micro-sillonné, pas du tout dans l'air du temps, même en 91 avec les Pixies, c'était du gros son, quoi. Donc si vous voulez, j'ai écouté ça et puis je l'ai mis de côté pendant un certain temps et puis après je suis revenu et puis quand même il y avait la voix de Robert Johnson qui est une espèce d'appel à l'aide en fait, qui est pas du tout dans les canons du blues en fait. Parce que les canons du blues, c'est plutôt la voix éraillée à la Howlin' Wolf ou des gens comme ça, quoi. C'est-à-dire des gens qui en imposent qui ont une certaine virilité dans la voix. Alors que lui était au perché. Et il pouvait moduler en plus sa voix comme il voulait. C'est-à-dire que c'est... Et puis, je vous dis, c'est cette espèce d'appel de phare me hante encore actuellement, en fait.
Alors Robert Johnson, il est mort le 16 août 1938 dans le Mississippi et 85 ans après, il est absolument incontournable pour les musiciens bien au-delà du blues. Solène Gardret a enquêté pour nous sur son héritage musical.
Thank you, land of California, to my sweet home, Chicago.
Sweet Home Chicago, l'une des 29 chansons enregistrées par Robert Johnson les deux dernières années de sa vie avant sa mort tragique à 27 ans. Malgré cette courte période, son héritage reste immense.
Tout le monde se reconnaît et tout le monde se revendique directement ou indirectement de Robert Johnson, puisqu'il a vraiment posé les bases de ce style musical.
Ce style musical, c'est-à-dire le blues, explique André Brodsky, l'un des directeurs du label de blues Dixie Frog.
C'est vraiment le style nourricier de toute la musique rock moderne, quoi. Vraiment, ça, tout part de là, même le jazz. On pense à tort d'ailleurs que le jazz est antérieur au blues. Non, en fait, le jazz arrive après le blues et le jazz, c'est un enfant du blues en fin de compte.
Et au sein du blues, et plus particulièrement du Delta Blues, Robert Johnson aura réussi, un peu par hasard, à marquer les mémoires, raconte l'historien et musicologue Gérard Herzhaft.
C'est un grand musicien de blues, il a vraiment une personnalité extraordinaire, il suffit de l'écouter pour ça. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant, mais c'est pas le seul. Tous les musiciens de cette zone ont quelque chose de ce genre, hein. C'est vraiment une musique régionale. Musique qui est souvent répétitive et puissante, vous voyez, il y a une espèce de côté lancinant. Vous avez souvent l'utilisation d'une seule gamme, c'est vraiment le type du Delta Blues, hein. Vous avez un côté vraiment hypnotique là-dedans, c'est fascinant. Il aurait pas rencontré le diable, il serait vraiment intéressant.
Robert Johnson aurait vendu son âme au diable pour devenir en échange un virtuose de la guitare. Si ses titres sont popularisés les années après sa mort, notamment grâce à l'impulsion du producteur américain John Hammond, c'est dans les années 60 que sa renommée est explose.
Pour le rock, cette espèce de, entre guillemets, Johnson Mania a véritablement apporté énormément de reprises. Hein, Eric Clapton, à ses débuts, reprend Crossroads. Vous avez également John Mayall. Vous avez les Rolling Stones qui vont en reprendre Love in Vain, en particulier, une très belle version. When the train left the station. Vous prenez le nombre de titres de Robert Johnson, il n'a pas enregistré grand-chose. Il y a eu énormément de reprises dans les années 60, 70 et jusqu'à nos jours, en fait. Hein.
Enfin, le deuxième gros rebond autour de Johnson sera dans les années 90, raconte le producteur André Brodsky.
À chaque fois que vous avez des espèces d'excès musicaux, il y a un contrebalancier qui ramène vers la source du truc, c'est le blues. Et le dernier exemple, c'est fin des années 80-90, où vous avez eu un très fort revival du blues, avec notamment l'album Unplugged d'Eric Clapton. Ça arrivait après une période musicale où vous aviez beaucoup des groupes de New Wave qui proposaient une musique qui était, ma foi, fort intéressante, mais qui était quand même très électronique, avec des boîtes à rythme, des choses comme ça. Et il y a eu un besoin de retour vers une sorte d'équilibre avec quelque chose de plus basique et puriste. Ben, on est revenu à la base, beaucoup plus. Voilà, le blues est là et il sera toujours là et c'est un truc de base et tout le reste vient un peu autour et de temps en temps, ben, on revient à la base.
Solène Garderet pour VMDN sur RFI. Est-ce que vous êtes musicien vous-même, Franz Duchazeau?
Je gratouille un peu de guitare, ouais, mais c'est juste... je fais pas de chansons, en fait, c'est juste du... Je fais mes petits accords de blues et je gratte les cordes et ça me suffit, quoi.
Alors quand on raconte dans un album de bande dessinée la vie d'un musicien comme Robert Johnson, est-ce que la guitare c'est un personnage ou est-ce que c'est un accessoire?
La basse, c'est un accessoire plus qu'un personnage. Les bluesmen peuvent uniquement chanter en tapant dans leurs mains, ils peuvent jouer de l'harmonica, ils peuvent souffler dans un kazoo, enfin... Tout est bon. Après, l'objet emblématique de la guitare est... Oui, c'est sûr que c'est...
C'est une compagne de voyage. Il est toujours là, c'est ce qui lui permet de se faire entendre, voilà. De se faire inviter, de jouer dans les bars en particulier. En fait, elle est plus fidèle, sa guitare, que lui-même.
Ah oui, ça...
Pour le coup, hein, y a pas photo, comme on
mais
dit.
Mais ils changeaient souvent de guitare parce qu'on leur cassait beaucoup leur guitare, donc de toute façon, ils ne pouvaient pas ça vraiment s'y attacher non plus, quoi.
Alors, il y a plusieurs guitares dans cet album. Elle apparaît pour la première fois à la page 14, debout sur la banquette arrière d'une voiture, puis à la page 17, entre les doigts du musicien, puis dans le dos du personnage, dans le dos de Robert Johnson, la caisse en haut et le manche vers le bas. à la page 19. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'apparence, du son, de l'histoire? Alors, j'allais dire de cette guitare, mais peut-être plutôt de ces guitares, puisque, comme vous le disiez, il y en a énormément à travers votre récit. Il y a une scène, d'ailleurs, où il refuse la guitare électrique. On lui dit « ça, c'est pas pour lui ».
Bah, c'est les tout débuts de la guitare électrique, 1938. Il essaye la guitare. Ça, c'est une vraie anecdote. Il était à New York. Il a croisé, paraît-il, Charlie Christian, qui est un jazzman, qui utilisait cette guitare-là. Et il est tombé dessus. Il a essayé la guitare. Il lui a fait essayer. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui, parce que c'était un autre univers, un autre son, c'est une autre façon de jouer. Lui, il vient du blues racine, la racine dure du blues acoustique, quoi. Donc, il a pas réussi. Il a dit, bon, après, on dit beaucoup de choses aussi sur Robert Johnson, mais il aurait dit qu'il n'avait pas réussi à la faire parler, donc c'était pas son instrument, quoi.
Alors, sauf erreur de ma part, peut-être que c'est une erreur, mais enfin, vous allez me dire. Il me semble que quand il était jeune, vous lui dessinez une guitare avec une caisse rectangulaire, c'est vrai?
Oui, bah, il utilisait tous les moyens pour... normalement, on pouvait suspendre une corde comme ça sur un mur en bois et faire glisser un bottleneck, c'est-à-dire un espèce de cul de bouteille, de goulot de bouteille sur une seule corde, de façon à produire des sons très lancinants comme ça, très, très répétitifs, qui correspondent bien justement à ce blues rural qu'on adore, quoi.
Alors, le deuxième instrument emblématique de Johnson, c'est l'harmonica. Alors, il avait commencé par la guimbarde. Il a ensuite abandonné la guimbarde pour l'harmonica. Mine de rien, jouer guitare et harmonica en même temps, c'est pas évident. Donc, c'est lui qui a inventé le
instrument. Non, il n'a pas inventé. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Il jouait de l'harmonica en grattant la guitare. Et puis, il avait tout un tas de petits instruments dans sa poche, comme le kazoo, des choses comme ça, des mini-instruments qui permettaient d'agrémenter. Il était polyvalent dans l'instrumentation, quoi.
Et puis, le troisième instrument, c'est évidemment sa voix. J'aurais peut-être dû commencer par là, d'ailleurs. Y a une expression qui revient très souvent dans l'album. Je l'ai citée en introduction. C'est l'expression « il chante comme un oiseau ». Elle vient d'où, cette expression? C'est du François Duchâteau?
Non, c'est... C'est Johnny Shines qui est
Johnny grand Shines, ami. C'est son compagnon de route, en l'occurrence, dans l'album.
Son grand ami de fin de vie, et qui le dit quand il est arrivé dans cet hôtel où Robert l'attendait. La femme de l'accueil lui a dit il y a votre ami qui est arrivé dans votre chambre, il est dans votre chambre, et depuis lors, il n'arrête pas de chanter, il chante comme un oiseau.
Eh bien, on écoute l'oiseau. Cette émission est une rediffusion. Road. Cette Airplane Blues, Robert Johnson dans VMDN sur RFI avec Franz Duchazeau qui publie Les derniers jours de Robert Johnson aux éditions Sarbacane. Que nous raconte cette chanson, Franz Duchazeau?
Ah ben là, franchement, je sais pas.
Alors, la Terraplane, c'est une voiture, hein, une voiture américaine, mais il y a une forme de métaphore sexuelle, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les paroles de cette chanson.
C'est possible.
Alors, elle revient, cette chanson, extrêmement souvent dans l'album, un peu comme un leitmotiv, alors soit parce que votre héros l'interprète, soit parce qu'on l'entend hein, dans un jukebox, par exemple, soit à travers d'autres allusions. Pourquoi est-ce que vous avez fait de Terraplane Blues et de la Terraplane une sorte de refrain?
Parce que c'était une chanson qu'on entendait assez à l'époque. C'est un de ses premiers tubes, en fait. Donc, je pense qu'il raconte qu'il aimerait bien avoir une Terraplane pour séduire les filles. Et c'est un peu ça, quoi. C'est toujours un peu le même leitmotiv, quoi. Mais oui, je crois que c'est le morceau qu'il a le plus vendu à l'époque, le disque le plus vendu pour lui. Enfin, ce qui représente très peu d'exemplaires, hein, mais on l'entendait dans les jukebox, en tout cas. Ouais.
Alors, vous l'avez évidemment dessiné, la Terraplane. Il y a énormément de véhicules hein, dans cet album. Vous aimez les dessiner, les voitures. Il y a en particulier une scène d'embouteillage absolument, absolument incroyable.
Oui, j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est graphisme américain des années 20-30. Ça, c'est le génie américain. Ils ont le truc pour rendre les choses très belles, quoi. Une petite boîte de médicaments avec le logo de l'époque. Tout est merveilleux, quoi. Tout est merveilleusement dessiné. Et les voitures, c'est pareil, quoi. Elles ont un look terrible, très très flatteur à l'œil, quoi.
Alors là, justement, devant moi, j'ai une page de transition, comme on dit. Donc, il y a juste une voiture, hein, pas exactement au centre, mais quasiment au centre d'une page blanche, avec des ailes particulièrement rebondies.
Développé.
C'est par ces ailes-là que vous avez commencé à dessiner cette voiture. Comment est-ce que vous l'avez appréhendée? Vous l'avez appréhendée techniquement par les petits détails, ou bien c'est d'abord une espèce de grosse patate, si vous voulez?
C'est la forme générale, oui, effectivement. Après, on va vers les détails, mais... Puis j'aime beaucoup les ombres, les petites ombres qu'on peut dessiner sur les véhicules.
Grâce au pare-choc en particulier.
Voilà, tout de suite, ça modèle, ça met en valeur certaines formes, quoi.
Alors le premier véhicule que l'on voit, il apparaît dès la première page de l'album, Franz Duchazeau. Alors il y a en fait deux éléments. Il y a une église. Et juste en dessous, il y a justement une vieille voiture, pas en très très, un très très bon état. Pourquoi est-ce que vous avez commencé cet album avec ces deux éléments-là, l'église et la voiture?
Bah, l'église, c'était parce qu'il était, il allait souvent à l'église quand il était enfant. Sa mère l'emmenait écouter des chants.
Le gospel en particulier. Voilà. Sa mère chantait d'ailleurs elle-même à l'église. Hein, je crois.
Sa mère pouvait éventuellement chanter, mais en tout cas, elle chantait... Je ne sais même pas si, en fait, c'est moi qui l'ai fait chanter. Hein. Je ne sais même pas si elle chantait dans la réalité, mais j'aimais bien l'idée qu'elle chante, quoi, qu'il soit vraiment imprégné par ça depuis l'enfance, quoi. Et donc, du coup, après, on est obligé d'inventer certaines choses. Hein. Et puis l'église, oui, parce qu'il allait à l'église et l'image de l'église revient dans l'album. Constamment aussi parce que c'est pour montrer à quel point il renie un peu tout ce qu'il a vécu enfant quand sa mère l'emmenait dans les églises. En fait, on l'obligeait un peu à croire à quelque chose et il s'est bien vite rendu compte par l'expérience de la vie que finalement, ça c'était pas très utile de continuer à penser de cette façon, quoi, c'est-à-dire de croire à quelque chose qui n'existe pas. Enfin, c'était...
Et la voiture qui est donc sur la case d'en dessous?
Ben, la voiture, ça symbolise bien l'époque, en fait. On se situe là dans les années... Avec une voiture comme ça, on est plutôt dans les années 20. Donc c'est une carcasse, là. On est en 38, donc voilà, elle a vécu. Et on se situe tout de suite l'époque, quoi. Avec l'église et la voiture, on est tout de suite immergé, quoi. En fait.
Et ces deux dessins sont accompagnés par les mots du narrateur, une phrase à la première personne et qui claque. « Je suis mort, ce n'est pas la première fois », une phrase qui résonne évidemment avec le titre, hein, « Les derniers jours de Robert Johnson ». La vie de Johnson, c'est d'abord une histoire de mort? De mort au singulier, de mort au pluriel?
De mort au pluriel, oui, c'est vrai qu'il il a été confronté à la mort très très tôt. Je lui fais dire qu'il est mort la première fois quand sa mère l'a abandonné. Ensuite, c'est sa femme qui meurt avec son bébé dans le ventre. Donc ça, il est très jeune encore. Et donc du coup, à 20 ans, il a déjà vécu beaucoup de choses, en fait. Il s'installe avec cette femme. Il pense qu'il va devenir un bon père de famille. Et donc du coup, il lâche un peu la musique pour se consacrer au chant et subvenir aux besoins de sa petite famille. Et en fait, tout dégringole d'un seul coup comme ça. Et il est obligé de... Tout de suite, être confronté à quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quoi.
Il dit d'ailleurs à un certain moment de votre récit, les morts sont finalement plus vivants que moi. Alors la mère, un mama, comme il dit dans l'album, ça peut surprendre parce que ce que l'on sait, ce que l'on retient souvent de Robert Johnson, c'est plus l'absence du père que l'absence de la mère. Vous insistez d'ailleurs beaucoup sur sa relation avec ce père géniteur. C'est ça la déchirure originelle?
La déchirure originelle, je pense que c'est la mère qui l'a abandonné quand il était petit. Après, la mère s'est séparée de son père très vite. Parce que le père, à mon avis, ne voulait pas avoir cette vie-là installée. Et donc, il a renié l'enfant. Mais Johnson, toute sa jeunesse, a poursuivi l'idée de quand il, partout où il allait, demander si on connaissait son Noah Johnson, c'est-à-dire son père géniteur. Et donc, il a sans cesse, il avait ça en tête, quoi. Il fallait répondre à cette question, quoi.
Alors en fait, son vrai père, c'est pas son père biologique, c'est Ike. Ike Zimmerman.
C'est moi, je pense que
c'est comme ça qu'on peut le ressentir.
C'est comme ça que je le fais comprendre parce que effectivement, c'est lui qui lui a remis le pied à l'étrier, quoi. Il voulait devenir un musicien, un guitariste accompli. Il était très moqué par son jeu de guitare quand il était plus jeune, dans les années 20, fin les années 20. Et il jouait bien de l'harmonica, mais il avait envie surtout d'être un vrai bluesman qui gratte, quoi. Et comme il se faisait beaucoup moquer, il a pris la mouche, il est parti. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais on sait qu'il a rencontré Ike Zimmerman, qui lui est quelqu'un qui travaillait sur les routes. À couler du bitume sur les routes. Et le soir, il grattait sa guitare pour lui, ou il chantait pour lui-même, ou parfois, quand il avait envie, il allait dans un bar chanter pour les autres, quoi. Mais c'était, paraît-il, un très très bon musicien, et il n'a jamais eu le besoin d'enregistrer quoi que ce soit, il suffisait à... Et je le fais rencontrer donc sur Ike Zimmerman qui lui apprend les bases de tout ce qu'il doit savoir pour devenir un musicien accompli. Et je pense que effectivement le fameux croisement dont on entend tout le temps parler et à la longue ça devient pénible parce que c'est pas ça la réalité, c'est sa rencontre avec Ike Zimmerman, quoi.
Voilà, je cherchais un père, je cherchais mon père, je l'ai trouvé.
Voilà,
c'est ce que l'on lit dans cet album. Comment est-ce que vous avez procédé, Franz Duchazeau, pour nous faire rentrer, à travers vos dessins, à travers vos mots, dans la psyché de Robert Johnson?
Généralement, j'essaie de me mettre à la place du personnage. Alors évidemment, c'est très subjectif. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire ça, en fait. Je me dis, mais comment peut-être moi j'aurais fait pour me sortir de cette situation et cette espèce de... cette volonté de vouloir sortir des choses ordinaires, en fait. C'est-à-dire, je pense que Robert Johnson, quand il a compris que la façon de voir le monde allait être dans la façon d'être accompli en tant que guitariste et en tant que chanteur, guitariste... Il l'a compris parce qu'il savait que c'était vers ça qu'il devait aller. Et moi, c'est des choses qui me parlent. C'est cette espèce de frottement entre la vie et ce que doit être la vie et ce que doit être une vie dite artistique. On ne peut pas se suffire simplement de vivre, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Certains trouvent que pensent que c'est la religion et Robert Johnson, lui, pense que c'est plutôt de devenir quelqu'un d'accompli dans son art, en fait. Et ce frottement-là, il veut absolument le capter, il veut l'avoir, il veut que ça soit inscrit en lui, quoi.
Cette émission est une rediffusion.
Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, ooh, when you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. Me and the devil were walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that you would dog me round. Babe, you know you ain't doing me right, don't you?" She said, "You don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my body, babe, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body, ooh, down by the highway side."
Me and the Devil Blues, Robert Johnson, que nous évoquons aujourd'hui sur RFI à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Les Derniers Jours de Robert Johnson, que vous signez chez Sarbacane, Franz Duchazot. Alors, on parlait de la mort il y a un instant, elle plane évidemment d'un bout à l'autre du récit. Il y a pourtant une image de vie qui, elle aussi, revient très régulièrement dans l'album. Vous le dessinez en train de marcher sur les mains, en train de chanter ou de siffloter, y compris d'ailleurs, et c'est la dernière image qui nous reste, puisque c'est celle de la dernière planche de l'album. Comment cette posture vous est venue ?
Ah, comment, en fait, ça représente bien l'enfance, cette espèce d'étincelle de vie, d'insouciance du monde. On est projeté comme ça dans le monde et l'enfance est... représente cette espèce de force de vie qu'on perd avec le temps, en fait, et qu'on aimerait bien retenir et qu'on aimerait bien garder tout le temps en soi, mais c'est difficile. Et montrer d'un enfant qui marche sur les mains, les enfants le font, donc, enfin, parfois, c'est une façon de montrer l'insouciance.
Alors, on sent d'un bout à l'autre de votre récit que vous avez beaucoup travaillé sur les postures, sur les attitudes du personnage, sur sa démarche, que ce soit de face, de dos, de profil, la dégaine, hein, quand il boit au goulot, par exemple, quand il joue évidemment de son instrument dans les bars ou dans la rue. En fait, on a presque l'impression qu'il en dit autant, voire plus avec le corps qu'avec les mots.
Il y a de ça, il en joue aussi apparemment, puisqu'il se prenait en photo de façon assez... la photo la plus connue de lui, il a un chapeau, un peu de gambier avec une guitare. C'est un peu l'image qu'il veut donner de lui.
Il y a un petit côté dandy, je trouve, dans sa façon voilà, de se comporter.
D'ailleurs, oui. son ami Johnny Chang disait tout le temps qu'ils voyageaient ensemble, ils prenaient le train, dans des endroits très poussiéreux, et il disait: "Mais comment tu fais pour être tout le temps impeccable, toi? Moi, regarde, je ressemble à rien, je ressemble à un pouilleux, toi t'es tout le temps habillé, t'es toujours propre, et tu ressembles à plus à un lord qu'à un bluesman, quoi." Et il voulait, je pense qu'il y avait une volonté aussi de s'élever
socialement, une forme de fierté.
Je pense qu'il y a de ça. Il voulait sortir un peu de cette condition dans lequel il était enferré, quoi. Mais
Et c'est un peu ce qu'on ressent d'ailleurs quand on voit le dessin que vous avez choisi pour la couverture de l'album. Donc il est de profil, hein, Robert Johnson, le clopobec entre deux doigts avec son galurin sur la tête et le fameux costume rayé que l'on retrouve dans beaucoup de séquences de l'album. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce dessin-là sur la couverture, un dessin qui figure aussi à la page 195 de l'album?
Parce que c'est déjà c'est graphique. J'aime le côté graphique du dessin. Il y a à la fois il y a un modelé et en même temps il y a quelque chose de très graphique, de simple et qui parle tout de suite à tout le monde, qui flatte l'œil en fait. Et puis j'aime pour revenir sur ce chapeau et cette façon dont ils s'habillent, ça me fait penser un peu aux rappeurs maintenant qui mettent leur casquette à l'envers. Leur corps parle aussi pour eux, quoi, de cette façon. Je pense que c'est le même message aussi. Ça identifie tout de suite le personnage, quoi.
Le noir et blanc, c'était une évidence pour vous, pour moi, sur ce genre de récit?
Le noir et blanc, c'est ce que je préfère. Moi, c'est là où je m'amuse le plus. Généralement, les couleurs viennent un peu tuer le dessin. Et je préfère avoir des modelés en noir et blanc. En plus, avec mon dessin un peu poussière, un peu poussiéreux comme ça, ça correspond bien. L'univers blues correspond exactement à ce dessin-là.
Quand on dessine en noir et blanc, est-ce qu'on dessine en noir et en blanc ou est-ce qu'on dessine dans toute une palette de gris, en quelque sorte?
Moi, j'essaie de faire du noir et blanc et après, je rajoute du gris, en fait. Je vois, j'essaie de modeler et tout, pour avoir quelque chose d'harmonieux.
Comment est-ce que vous travaillez justement les différentes nuances de gris
Tout est fait.
Quoi, techniquement parlant?
Tout est fait à l'encre de Chine, avec un pinceau, et avec toujours le même pinceau. C'est pas du fusain, comme je lis à droite et à gauche. C'est tout le temps de l'encre de Chine, c'est de l'encre séchée sur la partie haute des poils du pinceau et que je frotte doucement comme ça sur le papier qui donne cette espèce de modelé. J'ai découvert ça totalement par hasard, hein, avec un pinceau qui séchait comme ça. J'ai frotté le papier et tout de suite c'était joli à regarder, donc je m'en suis
servi. Et vous estompez aussi?
Non, pas du tout.
Pas
non,
du tout.
Non.
Pas du tout. Alors l'album est donc, on l'a compris, en noir et blanc. En revanche, la reliure, très beau bleu. Bleu,
oui.
Comme la note bleue.
Voilà.
Voilà, la fameuse blue note, c'est-à-dire l'essence même du blues, avec donc les vibratos, les bends, les sides. La déception, c'est ça le blues, dit Meteor Slim, donc mm-hmm. Le personnage que vous avez inventé. Il le dit donc dans l'album, dans cet album-ci, hein, à Robert Johnson, lors de la fameuse rencontre factice qu'on évoquait rapidement tout à l'heure. La déception, c'est ça le blues. Est-ce que c'est une bonne définition du blues?
Ça peut être le blues, ça peut être plein de choses, le blues. La déception, oui, on fait partie. C'est se rendre compte que les choses ne se passent pas comme on avait espéré, quoi. Mais en tout cas, pour Meteor Slim, c'est ça. Et puis, je voulais faire un clin d'œil avec Meteor, parce que il y avait ce clin d'œil dans l'album Meteor Slim avec Robert Johnson, où on le voit quelques pages. Et là, je voulais terminer sur... on retrouve le personnage comme ça dans les poubelles, qui montre bien qui il est, c'est-à-dire un personnage qui a raté tout ce qu'il avait entrepris. Et puis il se trouve que Robert Johnson est là et Robert est pas loin de ça non plus, quoi. C'est-à-dire que le blues ne vient pas de nulle part, quoi. Il vient de beaucoup d'échecs, quoi.
Ouais, et la blue note, on l'entend en particulier dans un autre morceau emblématique de Robert Johnson, Sweet Home Chicago.
To my sweet home, Chicago.
vos planches vibrent hein, de ce blues, Franz Duchesneau, avec des chansons de Robert Johnson, évidemment, mais aussi d'autres artistes. Alors, petite curiosité, parfois les paroles sont en anglo-américain, parfois elles apparaissent en français. Pour quelle raison ?
Pour les dialogues en anglais, c'est pour que ça sonne mieux, en fait. Parce que parfois, ça sonnait mieux en anglais. Et pour les chansons traduites, c'est vraiment pour que les gens comprennent ce qu'il y a dans les chansons, en fait. Pour qu'on n'ait pas... qu'on ne lise pas en anglais comme ça et on se dise « Ouais, je traduirai, on verra plus tard. » Mais c'est pour que le lecteur soit tout de suite... imprégné par ce que raconte la chanson, en fait.
Alors, Robert Johnson est un dragueur, un beau garçon, hein, qui mène une vie de patachon, qui multiplie les conquêtes, les coucheries, les beuveries aussi, qui parfois dégénèrent en bagarre. Est-ce que vous diriez que c'était un homme libre ou un homme enchaîné par ses addictions ?
C'est compliqué à répondre à ça, mais je pense qu'il était... je pense que c'était un homme dangereux pour lui-même, en fait. D'ailleurs, c'est ce que dit Muddy Waters, qu'il l'a croisé vaguement à un Duke Joint à la fin de sa vie. Il l'a vu de loin et il s'est dit « Non, il ne faut pas s'approcher de cet homme ». Je pense qu'il avait... c'était un bagarreur, mais dans le sens où il provoquait les bagarres, mais il se mêlait jamais à la bagarre. C'était toujours les autres qui venaient à son secours, en fait. C'est un homme qui était dangereux pour lui-même. Il se mettait tout le temps en danger, quoi. Il allait vers les choses qu'il ne fallait pas faire, quoi. C'est-à-dire aller vers une femme mariée ou en ayant beaucoup bu avant. Et c'était constamment se mettre en danger.
Alors, je vous posais la question parce que dans une réplique, il dit négligemment « L'homme est un prisonnier qui n'est jamais satisfait ». Et puis, à la page 198, vous le représentez. C'est pour moi l'une des planches peut-être les plus fortes, les plus étonnantes de l'album. Il y en a d'autres, mais celle-ci m'a particulièrement marqué. Vous le représentez avec un chat noir et vous le représentez en train de marcher, en train d'avancer, sa guitare à la main, avec le fameux costume et le chapeau qu'on évoquait tout à l'heure, mais entouré de personnages pas forcément hyper sympathiques, des fantômes peut-être ?
Oui, il est perdu dans la grande ville, quoi. Je crois qu'il est un peu paumé, lui. Il est tout seul et voilà, il commence à devenir parano, en fait. Je crois que l'image raconte ça. Il sent le mal, donc il tombe dans une espèce de paranoïa où tous ces démons remontent à la surface, quoi.
When I was a down child, didn't want to take no one's advice. When I was a down child, didn't want to take no one's advice. But I never let no one woman, man, mistreat me twice. Whenever she smiles, said she don't love no one but you. Whenever she smiles, said she don't love no one but you. You better watch out, buddy boy. Little girl is gonna drop a shuck on you. Mr. Downside, didn't want to take no one's advice. Oh, Mr. Downside, didn't want to take no one's advice. You know, but she never lets no one woman, man, mistreat him twice.
Alors là, Franz Duchesneau, c'est pas la voix ni la guitare de Robert Johnson, c'est celle d'un autre Robert du blues, Robert Lockwood Jr., tout simplement parce que cette chanson, eh bien, Robert Johnson lui-même ne l'a jamais enregistrée, mais il la chante à la page 145 de votre album, en marchant sur une voie ferrée avec son compagnon de route qu'on évoquait tout à l'heure, Johnny Shines. Et lors de leur pérégrination, les deux hommes sont confrontés au racisme, à la ségrégation qui empoisonne la vie quotidienne des Afro-Américains dans cette période, dans les années 30, dans le sud des États-Unis. On est vraiment dans une période de chasse aux nègres, l'expression figure dans l'album.
Bah c'est ça, oui. On peut dire ça, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des... Eux se considèrent eux-mêmes comme des fugitifs, quoi, toujours prêts à piquer le 100 mètres pour éviter d'avoir des problèmes. Et, donc c'est très prégnant à l'époque. Quoi,
on retrouve des arbres, des arbres avec des pendus, des noix pendues aux branches.
C'est la fameuse chanson de Billie Holiday, quoi, les Strange Fruit. Donc elle parle de ça. Eux sont confrontés à ça au quotidien et... ils sont obligés de fuir constamment, quoi. C'est pour ça aussi, quand ils arrivent dans une ville, ils recherchent le quartier noir tout de suite pour éviter d'avoir des problèmes, quoi.
Et dans la BD, il y a deux hommes, deux blancs, venus de New York, qui sont sur les traces.
Ouais.
Donc, qui recherchent précisément Robert Johnson. On ne sait pas trop au départ pour quelle raison ces deux personnages-là, vous les avez inventés ou ils ont réellement existé ?
Alors, c'est John Hammond qui les a missionnés pour aller rechercher Robert Johnson pour le.
Donc, John Hammond, c'est l'homme du Carnegie Hall.
Voilà, qui prévoit de faire un festival de musique noire à New York en fin d'année 38. Et il se met à chercher Robert Johnson dès l'été. Et donc, il missionne deux missionnaires pour aller récupérer le Robert Johnson, sauf qu'il tombe au moment où Robert Johnson meurt en août 38, et donc il ne pourra jamais aller à ce festival de musique, et il sera remplacé par Big Bill Brunzi d'ailleurs.
Alors il y a une case assez incroyable où les deux personnages en question croisent Johnson et Shine sur une route, mais sans les voir, ils sont des deux côtés, il y a un parterre central au milieu et personne ne voit les autres. Il y a aussi une scène avec ces deux blancs dans une station-service, là aussi on sent la ségrégation, ils sentent le regard des noirs, les deux blancs, et ils ont cette phrase assez incroyable, on n'a pas la bonne couleur.
Ah,
comment
ben
faut
oui.
comprendre cette phrase ?
J'avais envie d'inverser le truc. non, c'est... Bah, ils ressentent aussi le fait que d'être là, c'est pas forcément l'idéal pour eux non plus, quoi. Et en plus, ce sont deux blancs à la recherche d'un noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'était. Je sais pas si c'est arrivé dans la réalité en ce qui concerne ces deux personnes, mais je pense qu'il y avait aussi ce monde-là aussi existait. C'est-à-dire. C'était pas uniquement les Noirs qui étaient pourchassés ou deux Blancs qui se baladent dans le sud du Mississippi.
On les regarde.
On pouvait les regarder bizarrement aussi, quoi. Qu'est-ce qu'ils font là, quoi ?
Et le diable, Franz Duchoiseau, comment vous le dessinez, le diable ?
Bah ça, je dessine pas, moi.
Bah voilà, on est d'accord. Vous dessinez pas le diable.
Bah le diable.
C'était un parti pris dès le départ.
Je dessine pas le diable parce que. À part un titre de chanson, Me and the Devil Blue, il parle jamais du diable dans ses chansons. Donc, cette mythologie qu'on a inventée qui revient constamment dès qu'on parle de Robert Johnson, elle était tellement rebattue que ça ne m'intéressait pas de le montrer. Moi.
Voilà. Je voulais parler d'autre chose. Mais il y a une scène très importante dans un carrefour avec un arbre, mais on ne dira pas plus.
C'est le croisement
où
il croise Ike Zimmerman qui, justement, le fera changer lui donnera un espoir de vie.
Qui est plus son ange gardien que le diable, en l'occurrence. Merci beaucoup, Franz Duchoiseau, d'être venu nous voir. Les derniers jours de Robert Johnson est paru, je le rappelle, chez Sarbacane. Merci à tous de nous écouter. Merci également de votre fidélité. Cette émission était une rediffusion. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures culturelles. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.